Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour à vous, bienvenue en 2021. Vous verrez, ça ira bien. 2021, l'année des vaccins. Ah oui, on n'est peut-être pas rendu alors. Comment ça s'est passé hier soir pour vous? C'était spécial, hein, petit comité et couvre-feu d'artifice. Les Champs-Élysées désertées, la plus vide avenue du monde. Quelques teufeurs qui ont bien bravé l'interdiction comme en Bretagne, mais dans l'ensemble, un 31 de raison. Sauf qu'on a vu du encore plus spécial que le spécial. BFM TV, au plus près du terrain, avait délégué une équipe pour couvrir le réveillon de la famille Kochanski. Écoutez.
Chez les Kochanski, le réveillon s'est fêté en famille, même si autour de la table, il y avait moins de couverts que d'habitude.
Ma mère a plus de 80 ans, donc elle a fait ce choix de rester confinée, de rester isolée. Ça fait mal au cœur, c'est raisonnable, mais on a toujours...
Voilà, mamie est restée chez elle, mais pas l'équipe de BFM TV, pimenter son petit réveillon avec une équipe télé à domicile aux petits oignons, c'est quand même pas mal. Enfin bon, bonne année à vous, bonne année Marie-Corentine, bonne année Gérald, bonne année Morissette, bonne année Rosalie, bonne année Wendy, bonne année Mehdi, bonne année, vous avez du temps devant vous, je peux tenir jusqu'à 11h comme ça, mais on va faire court, bonne année à chacun d'entre vous. Au menu de Culture Média ce matin, diriger un news magazine en 2021 et en plus un journal de gauche, oui mais laquelle? La nouvelle directrice de la rédaction de l'Obs, Cécile Prieur, est notre invitée en direct. Quelle orientation pour l'hebdomadaire fondée par Jean Daniel. Magie et modernité, ainsi que Georges Méliès démarre demain sur Arte et Arte.tv, avec notamment un documentaire sur l'inventeur des effets spéciaux au cinéma. Son co-réalisateur Serge Bromberg est avec nous. Après 10 heures, deux sœurs, l'une comme l'autre, virtuoses, Camille et Julie Berthelet, ressortent leur album Nos 4 saisons en version augmentée, violon et violoncelle à l'honneur. La fin de la série des séries d'Eva Rock avec ce matin sa série préférée de 2020. Laquelle? Ah, ben vous verrez bien. Premier Culture Média de l'année 2021 sur Europe 1. Soyez les bienvenus et en plus avec joie. Bonjour Thomas Hill, version 2021.
Bonjour Pascal Clark.
Bonne année à vous.
Bonne année, très bonne année.
Alors au sommaire de votre journal des médias.
Eh bien le temps passe et beaucoup de choses ont changé, comme disait Nagui Marron. Alors aujourd'hui on fait le bilan calmement.
D'abord les audiences de cette soirée du 31, qui l'a emporté?
Vous savez, les premières audiences de l'année ont toujours une portée symbolique pour les grandes chaînes. Alors à votre avis, qui l'a emporté entre le grand bêtisier de TF1 ou la soirée du 31 à Versailles animée par Stéphane Bern? Vous avez une petite idée ou pas?
Moi je dirais que la bêtise, ça marche toujours.
Ça marche très bien, notamment sur les ménagères de moins de 50 ans, qui ont fait un très très bon score. Bah oui, c'est
vous aviez promis en 21 de plus dire utiliser cette expression horrible.
Oui, TF1 est en tête là-dessus, sur cette cible. Mais globalement, TF1 se fait battre quand même par Stéphane Bern et assez largement.
Ah bon?
4,3 millions de téléspectateurs sur TF1 contre 5,2 pour la grande soirée à Versailles. Il faut dire que France 2 avait mis le paquet. Hein. Je sais pas si vous avez regardé quelques images,
non,
mais le spectacle était assez grandiose. Et puis, à noter quand même 2,9 millions de téléspectateurs devant Meurtre à Colmar, des gens qui voulaient rester en cohérence avec l'année qu'on venait de passer.
Voilà. Oui, c'est ça. Culture Média. Cette année 2020 qui aura été cruelle jusqu'à son dernier jour, le rédacteur en chef de Paris Match, Olivier Royan, nous a quittés hier.
Oui, Olivier Royan est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 58 ans. C'est une grande figure de la presse française qui s'en est allée. Il avait raconté qu'à l'âge de 7 ans, il avait vu son père arrivant avec le numéro de Match sur les premiers pas de l'homme sur la Lune. Le journal est entré comme ça dans ma vie. Il lui sera resté fidèle jusqu'au bout. Olivier Royan est entré à Paris Match en 1984. Il aura été grand reporter, correspondant aux États-Unis avant de prendre la tête de la rédaction en 2006. Constance Binquet, directrice du Pôle News du groupe Lagardère, propriétaire de Match et d'Europe 1, nous dresse le portrait d'Olivier Royan.
Il était généreux, il était attentionné, élégant, évidemment exigeant et très professionnel. Il a passé plus de 35 ans à Paris Match. Il était passionné par les États-Unis, passionné par Paris Match qui coulait dans ses veines, passionné par sa rédaction, par ses lecteurs, et puis passionné par Delphine, sa femme, par Hermine et Benjamin, ses enfants. Il avait vraiment un regard particulier sur les autres, bienveillant. et d'une grande bonté. C'était un homme rare. Il va me manquer, il va nous manquer à tous à la rédaction. Il était évidemment aussi courageux, très courageux, face à la maladie qu'il rongeait. Et il était, même à la fin, d'une incroyable curiosité sur les choses et sur son magazine.
Olivier Royan, qui était bien directeur de la rédaction de Paris Match. Hier, on apprenait aussi le décès du grand comédien et metteur en scène Robert Hossein. France Télévisions lui rend hommage.
Oui, en diffusant deux longs métrages. D'abord, ce soir à 21h05 sur France 3, son adaptation des Misérables, avec Lino Ventura, Michel Bouquet et Jean Carmet. Et puis lundi, sur France 5, dans le cinéma de minuit, Le Repos du Guerrier, dans lequel Robert Hossein donne la réplique à Brigitte Bardot. Mais Robert Hossein, c'était aussi, et peut-être surtout, un amoureux du théâtre qu'il voulait rendre accessible au plus grand nombre. Écoutez ce qu'il disait à une salle d'étudiants en 1976 pour les convaincre de pousser la porte d'un théâtre.
Je dis venez voir au moins une fois. Ne décidez pas que ce n'est pas bon. Ne décidez pas déjà une fois pour toutes que vous n'irez jamais parce que ça ne vous intéresse pas, que le théâtre c'est une chose qui ne vous intéresse pas. Le cinéma est coté, la télévision est cotée, le jardinage est coté, les voitures, les matchs de football, le tiercé. Il faut que le théâtre devienne cela.
La voix de Robert Hossein. Et puis on vient d'avoir la liste des nouvelles personnes récompensées de la Légion d'honneur. Promotion 1er janvier 2021, Thomas.
Oui, la grande majorité des 3884 personnes décorées le sont pour leur investissement dans la lutte contre l'épidémie. Mais on notera aussi la promotion de Michel Sardou et Yann Arthus Bertrand, élevés au rang de commandeur. Roberto Alagna est maintenant officier, quand le violoncelliste Gauthier Capuçon, les cinéastes Olivier Nakache et Éric Toledano, ainsi que la présentatrice du JT de France 3, Carole Gessler, devienne chevalier.
Et vous, toujours rien ?
Non, j'attends le coup de fil, en fait. Ça ne sonne pas, pour l'instant.
C'est pas pour cette année, visiblement. Vous le disiez en sommaire, le premier jour de l'année est souvent celui du bilan, les médias n'y échappent pas, et d'abord le secteur du livre, pour qui l'année aura été particulièrement mouvementée.
Avec une alternance de douches chaudes et froides, d'abord un premier confinement qui contraint tous les libraires à fermer, puis un rebond étonnant au printemps, avec des Français qui se ruent sur les livres devenus à la faveur de l'ennui un produit de première nécessité. Une deuxième claque lors du second confinement où les libraires ne sont pas considérés comme des commerces essentiels. Et enfin, un deuxième rebond plus spectaculaire encore depuis leur réouverture fin novembre. Au final, le secteur de l'édition se sort plutôt bien de cette année, espérant même faire mieux qu'en 2019. Reste à savoir si cela va durer dans le temps ou si finalement le livre a juste bénéficié de la fermeture des autres loisirs.
L'année aurait été plus difficile pour la presse et notamment pour le journal La Croix.
Ce fut une rude année pour La Croix. C'est le titre d'un long papier paru hier dans le quotidien catholique. Dans un exercice de transparence assez rare pour être souligné, le directeur délégué du journal y explique les mauvais chiffres. La baisse de 5% des abonnements papier, de 11% de la vente au numéro et au final une perte de 2,7 millions d'euros en 2020, alors que le journal était à l'équilibre depuis 20 ans. Seule petite note d'optimisme, la forte hausse des abonnements numériques qui, s'ils ne remplissent pas les caisses, ont au moins le mérite de rajeunir l'audience.
Côté télé, la chaîne Arte se félicite de ses excellents résultats.
Et elle a raison, hein, parce que non seulement la chaîne augmente de 12% son audience télé par rapport à 2019, mais sur le web, la croissance est carrément de 50% en un an, avec 137 millions de vidéos vues chaque mois sur l'ensemble de ses réseaux. Alors j'ai demandé à Gilles Fraissinier, le directeur du développement numérique d'Arte, de m'expliquer quelle était sa stratégie pour grandir.
Arte.tv, c'est bien plus qu'une offre de replay avec des programmes numériques pensés pour le numérique depuis déjà de nombreuses années, que ce soit des concerts avec Arte Concerts, que ce soit des documentaires, des fictions, des magazines et même du podcast. Arte Radio existe depuis déjà 18 ans. Sur les réseaux sociaux aussi, nous avons essayé de développer une offre spécifique, que ce soit du documentaire ou de la fiction. Si on prend un exemple, cet été on a diffusé, mis en ligne une série qui s'appelle Tu préfères, qui a été un vrai succès, en particulier sur Instagram, parce que ce programme a été pensé spécifiquement pour ce réseau social là et ça explique aussi cette évolution des audiences en 2020.
Le cinéma aura évidemment beaucoup souffert cette année, on en a parlé hier, et justement, Hollywood annonce l'arrêt des tournages jusqu'à nouvel ordre.
Oui, face à l'explosion du nombre de cas de Covid à Los Angeles, le syndicat des acteurs a décidé l'arrêt complet des tournages, au moins pour 15 jours. Il faut dire que la capitale du cinéma est devenue l'un des principaux foyers épidémique aux États-Unis avec 750 000 cas officiellement recensés. Les tournages étaient de toute façon fortement freinés par les assureurs qui refusent de prendre en charge les risques liés au coronavirus. À l'inverse, des films à gros budget ont relancé leurs tournages loin des États-Unis, comme le nouveau Mission Impossible tourné au Royaume-Uni et en Italie. D'ailleurs, pour éviter un nouvel arrêt du tournage de son film, Tom Cruise vient de dépenser des millions dans la construction d'un tout nouveau studio très sécurisé sur le plan sanitaire dans une ancienne base militaire au sud de Londres.
Sans blague.
On dirait un scénario hollywoodien.
Oui, ça pourrait même lui servir pour autre chose. Mais enfin bon. On termine avec la chanson la plus écoutée de l'année 2020.
1,6 milliard, c'est le nombre de fois où cette chanson aura été écoutée dans le monde uniquement sur Spotify. Il s'agit du Canadien The Weeknd avec son titre Blinding Lights, lumières aveuglantes, en espérant qu'on retrouve la vue cette année. Et puis aussi le goût, l'odorat, le toucher aussi, c'était bien. Ouais. Allez, bonne année à tous.
Et du coup, bon week-end à tous, vous l'avez ? Aha. Merci beaucoup Thomas Hill, c'est un plaisir ce journal des médias avec vous.
Merci Pascal.
Merci aussi à Louise Bernard, à suivre sur Europe 1, le mystère Georges Méliès, vous verrez, c'est magique, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Pascal Clark.
Un peu de magie, ça vous dirait, pour attaquer 2021. Un peu de magie doublée d'un mystère, autant ne pas lésiner. Arte et Arte.tv démarrent demain un cycle Méliès avec la diffusion de 13 courts-métrages de l'inventeur des effets spéciaux au cinéma. Mais il y a en plus un documentaire qui parle donc d'un mystère. Comment a-t-on pu retrouver des inédits de Méliès alors qu'il avait brûlé l'essentiel de ses films ? Bonjour Serge Bromberg.
Bonjour Pascal.
Vous êtes l'un des administrateurs de la Cinémathèque française et vous co-signez ce documentaire accessible dès demain sur Arte.tv, le mystère Georges Méliès. D'abord, s'il vous plaît, Serge Bromberg, merci de resituer pour tout le monde qui était Georges Méliès.
Alors c'est très simple, Georges Méliès était là lors de la première projection publique de cinéma, c'était le 28 décembre 1895, c'était les fameux Frères Lumière, et alors que les Lumières ont continué à tourner des documentaires et des vues du monde entier, Méliès, qui était un magicien, qui avait un théâtre de magie, le théâtre Robert Houdin, s'est dit « mais avec cette caméra, avec le cinéma, je vais peut-être pouvoir faire autre chose que ce qu'on voit en vrai. En gros, je vais peut-être pouvoir faire des tours de magie augmentés. » Et dès 1896, c'est-à-dire il y a 130 ans presque, il s'est mis à inventer un à un, finalement, tous les effets spéciaux, qu'on appelait trucage à l'époque, que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc le premier magicien du cinéma, et c'est un homme qui a eu un succès absolument phénoménal pendant les 15 premières années de sa vie.
Alors à l'époque, il épatait même les Américains, et là, ça c'est fort quand même.
Ah bah c'est même pas qu'il épatait les Américains, c'est que le cinéma a été inventé en France et disons-le, jusqu'à 1914, la Première Guerre mondiale, l'essentiel de l'industrie, ça peut paraître incroyable à vos auditeurs, l'essentiel de l'industrie cinématographique mondiale était sous contrôle français. La France était le Hollywood, le cœur de la machine, et puis le conflit mondial a tout arrêté et on sait ce qui s'est passé ensuite.
Alors, dans votre documentaire, Serge Bromberg, on apprend notamment le lien de Méliès avec les Frères Lumière que vous évoquiez à l'instant. On va écouter, c'est très émouvant, on va écouter tout de suite la voix de Georges Méliès.
Mon premier contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Béroudin, et comme il me connaissait de vue, il me dit... Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous est patrin vous-même. Et au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand tout à coup, je vis le personnage se mettre en mouvement, venir vers nous, quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits. Immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire.
C'est vraiment un truc extraordinaire. De quand date cette archive et comment l'avez-vous trouvée ?
Cette archive est connue, elle date du début des années 30, donc c'est un Méliès vieillissant. Méliès qui avait d'ailleurs un souvenir un petit peu bizarre, puisque l'entrée d'un train en gare de La Ciotat, le fameux film de Louis Lumière, ne faisait pas partie de la première projection, puisqu'il a été tourné l'année suivante. Mm-hmm. Mais bon, la légende est plus belle que la réalité, imprimons la légende. Mais ça vous dit à quel point Méliès est un homme du 19e siècle, dans l'énoncé, dans le verbe, et en même temps, on entend bien dans son cerveau, dans le côté malicieux, qu'il est déjà prêt à inventer tout ce qui va faire le cinéma moderne. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs a été honoré par Scorsese lorsqu'il a fait Hugo Cabret il y a quelques années. Et Méliès est devenu presque l'étoile polaire de tous les cinéastes de l'enchantement. Les Michel Gondry, tous les hommes de spectacle, d'animation qui n'existaient pratiquement pas à l'époque. C'est vraiment un homme de demain. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'Arte débute cette année avec les films de Méliès, avec notre documentaire, on en reparlera peut-être, mais avec les films de Méliès sur les nouveaux médias, c'est-à-dire avec les téléphones portables, avec la réalité virtuelle qu'on retrouvera dans le musée Méliès, qui sont des choses que Méliès aurait adoré s'il avait pu les faire.
Alors vous évoquiez, Serge Bromberg, le succès presque insolent de Georges Méliès au début, et puis au bout d'un certain moment ça starie, pourquoi ?
Ben parce que, comme aujourd'hui, vous savez, on est célèbre et puis le lendemain, on est tout à fait inconnu. Méliès était quelqu'un qui avait son propre style et donc, il a commencé en étant un pionnier et puis, 15 ans plus tard, il continuait à faire des films de Méliès dont les gens s'étaient lassés. Les industriels avaient construit des studios, avaient embauché des réalisateurs différents et à l'arrivée, ben, la petite scène de Méliès sur laquelle étaient tournés tous ces films qui ne faisaient après tout que 6 mètres de large, c'était que des plans fixes, enfin, on était virtuellement dans une sorte de théâtre cinématographique, avait lassé. Et du coup, les gens ont arrêté de regarder les films de Méliès. Méliès a fait faillite, la guerre est arrivée, et puis sa maison a été saisie, et ça a été la fin de Méliès.
Et puis un jour de désespoir, pour les raisons que vous venez d'évoquer, Méliès brûle tous ses films, enfin quasiment tous ses films.
Non, en fait, il brûle tous ses films. C'est qu'en on est en 1923, et les cinémathèques n'existent pas encore. Et du coup, la cinémathèque française a été créée en 1936. Méliès n'a nulle part où mettre ses films qui n'intéressent plus personne. Comme il est exproprié de sa maison, qui était aussi son studio et son stock, il prend les 520 négatifs des 520 films qu'il a tournés, c'est-à-dire tous ses négatifs, toutes les copies de tous ses films, des décors, des costumes, il fait un tas au milieu de son jardin, il allume une allumette, et c'est la fin du rêve de Georges Méliès. Enfin, du moins, le croyait-on.
Oui, c'est ça, parce que vous promettez dans votre documentaire un mystère, donc forcément, il faut tenir ce mystère. Et nous-mêmes, nous allons un petit peu attendre pour dévoiler ce mystère. Hein, c'est comme partout, à Hollywood, à la télé. On marque une petite pause, Serge Bromberg, et puis nous allons dévoiler le mystère Georges Méliès. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Et nous sommes toujours en compagnie de Serge Bromberg qui signe ce documentaire, qui co-signe d'ailleurs ce documentaire à voir dès demain sur arte.tv, le mystère Georges Méliès. Nous en étions à ce stade, Serge Bromberg, où vous nous racontiez que Méliès avait brûlé toute son œuvre en 1923, 520 films qu'il avait tournés. Et pourtant, là est le mystère. On en a retrouvé plus de la moitié. Comment est-ce possible ?
Alors, d'abord, la première phase, c'est que il y a eu, vous savez, les négatifs des films passent dans la caméra, mais à partir de ça, on fabrique des copies 35 mm qui partent vers les forains, vers les salles de cinéma. Donc, Madeleine Méliès, la petite fille de Georges Méliès, et Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, ont cherché des copies depuis très longtemps, et ils ont retrouvé des copies souvent en très mauvais état, un peu au hasard, des brocantes dans les greniers, dans les marchés aux puces, etc. Mais jamais, évidemment, on n'avait pu retrouver de négatif original, ce qu'on appelle les négatifs caméra, c'est-à-dire le film qui est passé dans la caméra, puisque Méliès les avait tous brûlés. Et la légende disait que aux États-Unis, il y avait peut-être un ou deux négatifs qui auraient survécu. Comment, pourquoi, on n'en savait rien. L'histoire, je crois qu'on peut la raconter, mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1902, Georges Méliès se fait pirater son chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune. Vous savez, cette image de la Lune avec l'obus dans l'œil. C'est une image que tout le monde connaît, même si les gens n'ont probablement pas vu le film. Le film est le premier blockbuster, c'est-à-dire le succès mondial du cinéma et il se fait pirater.
Comment ça, pirater même en 1902, ça veut dire quoi, pirater à l'époque?
Pardon?
Ça veut dire quoi pirater à l'époque?
Pirater, ça veut dire que on achète une copie comme si on allait la passer dans des salles de cinéma, et puis en douce dans un laboratoire, on en fabrique un négatif de pirate, et puis à partir de ça, on change le générique de début, et puis on le vend comme si c'était son film à soi. Et comme le cinéma c'était le western, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de centre national du cinéma, eh bien le film a circulé partout, mais c'est juste Méliès qui n'a pas touché les dividendes de son œuvre.
Et c'est donc grâce à ce piratage qu'on a retrouvé des traces.
Exactement. C'est le côté paradoxal, c'est que Méliès a une idée à l'époque, nous sommes en 1903, qui est une idée très avant-gardiste de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de sortir les films le même jour dans le monde entier. Aujourd'hui, ça paraît logique avec Internet, avec tous les réseaux, mais à l'époque, pour faire ça, il faut mettre un négatif dans un bateau, envoyer le bateau aux États-Unis, puisque le reste du monde, c'est surtout les États-Unis, envoyer son frère Gaston aux États-Unis, fabriquer un laboratoire à New York, et le jour J, on tirera des copies en Amérique à partir du négatif américain, et on tirera en France des copies à partir du négatif français. Et c'est ça, quelque part, la résolution du mystère, c'est qu'en réalité, Méliès, à partir de 1903, a été obligé, non pas de tourner un négatif qu'il a brûlé en 1923, mais il a été obligé d'en tourner deux. Et c'est ce négatif américain géré par Gaston Méliès, l'autre Méliès, aux États-Unis, qui a survécu, enfin plutôt, ils ont survécu plus ou moins. Mais enfin, en tout cas, il y en a un certain nombre qui sont là.
C'est une histoire incroyable. Vous, Serge Bromberg, vous dirigez Lobster Film, ça veut dire que vous parcourez le monde entier pour précisément retrouver des films disparus. Et c'est vous personnellement qui avez retrouvé cette trace-là des films de Méliès ?
Alors, cette trace, en fait, existait, était connue, comme je vous l'ai dit, il y avait des présomptions d'existence, mais l'histoire de ces négatifs, alors je ne vais pas la raconter ici,
non,
parce qu'ils ont eu une histoire pour traverser le siècle qui a été phénoménale. Mais c'est effectivement à Lobster, avec Éric Lange, qui co-réalise le film avec moi, que nous avons décidé de lancer une sorte de grand plan mondial pour aller essayer de retrouver ce qu'il reste de tous ces négatifs, et figurez-vous qu'il y en a 80, ce qui sur 520 films est quand même déterminant, et ces 80 films, les restaurer avec des grands partenaires américains, alors de prestige, l'Académie des Oscars, la Librairie du Congrès, le Centre du Cinéma en France, la Cinémathèque Française, et quelque part, l'important, c'est de remettre Méliès au goût du jour dans sa jeunesse et sa modernité éternelle. Mmh. Au fond, Méliès était un magicien, quoi de plus naturel que de disparaître en 1915 et de réapparaître en 2020. C'est presque la routine pour un magicien.
C'est vrai, ouais. Enfin, le tour en l'occurrence est assez beau. Serge Bromberg, on parle beaucoup des films féeriques de Georges Méliès, de la magie, mais ne pas oublier qu'il a aussi réalisé le premier film politique de l'histoire du cinéma, l'affaire Dreyfus.
Il a réalisé un film sur l'affaire Dreyfus, il a réalisé les premières actualités cinématographiques, il a réalisé le couronnement d'Édouard VII, qui a été diffusé avant le couronnement. C'est une sorte de film d'actualité avant l'actualité. Oui, encore plus fort que le direct. Il a fait les premières publicités. Enfin, en gros, il était là à l'époque des pionniers. Il fait partie de ceux qui ont tout inventé.
Ouais, Georges Méliès est mort le 21 janvier 1938, complètement ruiné. Il se trouve que l'an dernier, son arrière-petite-fille lançait une campagne de crowdfunding pour sauver sa tombe au cimetière du Père Lachaise à Paris. Ça paraît incroyable aujourd'hui.
Oui, ça paraît incroyable, mais sa tombe est effectivement rénovée. Elle est absolument magnifique. Il faut absolument rendre visite à la tombe de Georges Méliès au Père Lachaise. Et après, en revenant, aller sur les nouveaux réseaux pour découvrir l'inventeur du cinéma en relief, l'inventeur du cinéma sonore, l'inventeur du cinéma en couleur. Enfin bref, pour célébrer la magie de Méliès. Vous allez voir à quel point ce génie oublié du cinéma était un homme orchestre complet. C'était presque l'inventeur de tout. Enfin, pardonnez mon enthousiasme, mais c'était un homme absolument extraordinaire.
Vous dites dans votre documentaire que trouver les films, ce que vous faites au quotidien en parcourant le monde, devient une urgence totale. Plus le temps passe, plus la pellicule est en mauvais état, c'est ça votre défi ?
Absolument, les films ne sont pas sur un support pérenne. Le support se décompose au bout de 60, 70, 80, des fois 100 ans, des fois plus par miracle. Et j'appelle vos auditeurs, s'ils ont des films dans leur cave ou dans leur grenier, de vous appeler, d'appeler Europe 1 ou la Cinémathèque française ou nous pour essayer de dire, ben voilà, j'ai ces bobines, elles ne dureront pas très longtemps et il y a là-dedans peut-être l'un des 300 films encore perdus de Georges Méliès. Mais je voulais dire que l'important aussi, c'est de découvrir les films. Le 13 janvier devait ouvrir à la Cinémathèque française un musée permanent Georges Méliès. Mmh. Évidemment, il est reporté pour les raisons que vous imaginez. Mais demain, nous pourrons en permanence voir au cœur de Paris, découvrir le monde de Georges Méliès et qui commencera par une expérience de réalité virtuelle. Vous voyez, tout est dans tout et réciproquement, Pascal. Mmh. La modernité, elle est éternelle, elle s'invente tous les jours.
Une dernière question, Serge Brombeuf. Est-ce qu'à l'ère du numérique, votre métier, c'est-à-dire découvrir puis restaurer, ce métier-là est en train de disparaître ?
Non, il n'est pas en train de disparaître. Effectivement, les films, il y a de moins en moins de films à redécouvrir. Et puis, les réseaux font que tout le monde se parle. Donc, on découvre de plus en plus de films dans les cinémathèques. Mais ce qui est formidable, c'est que le numérique nous permet de faire voyager ces images à la vitesse de l'électron et de la lumière. Et du coup, nous ne réinventons plus les films, mais nous réinventons, nous redécouvrons, nous restaurons les spectateurs. Et ça, c'est absolument éblouissant.
Merci beaucoup, Serge Brombeuf. Le mystère Méliès, à voir dès demain sur arte.tv, plus ce cycle Méliès. Renseignez-vous sur le site, j'imagine, de la chaîne. Je vous souhaite une bonne année et je vous la souhaite magique, forcément.
Bonne année, Pascal, évidemment, vous aussi.
Merci à vous, merci. Avant de recevoir la nouvelle directrice de l'Obs, Cécile Prieur, musique sur Europe 1, voici LP.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Prendre la direction d'un hebdo plutôt soixantenaire alors que la presse papier s'efface peu à peu face au numérique, le faire en période de crise sanitaire, diriger un journal de gauche alors que la gauche peine à se trouver, voilà en gros. La mission de la nouvelle directrice de la rédaction de l'Obs, il y a du boulot, la preuve, elle est là ce matin en direct et en présentiel. Un 1er janvier, bonjour Cécile Prieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, une directrice fraîchement nommée ne prend pas de vacances.
Si, elle en prend quand même quelques jours.
Vous êtes partie ! C'est incroyable ! Je pensais que vous aviez passé ce moment de fête à regarder sur Instagram les photos de vos journalistes en vacances au soleil. Voilà un gros mois que vous avez pris la direction de l'Obs. Vous étiez avant directeur adjointe de la rédaction du Monde, qui fait partie du même groupe, tout ça est le même groupe. Est-ce que vous avez hésité lorsque la proposition vous a été faite ? Est-ce que vous avez hésité un peu, longtemps, pas du tout ?
J'ai d'abord réfléchi pour savoir si c'était un défi que je pouvais relever. Moi, j'ai pas beaucoup longtemps hésité parce que d'abord c'est un magnifique magazine, c'est un très beau média, et puis parce que voilà, c'est un challenge personnel et collectif qui m'intéresse énormément. Cette rédaction, elle est très riche, elle est très intéressante, elle est riche de 135 journalistes qui ont des valeurs, une histoire, un passé, et qui a un avenir vraiment très intéressant à construire ensemble. Donc voilà, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est une aventure collective. Le journalisme, c'est un sport collectif. Donc ça m'intéressait de rejoindre une nouvelle rédaction. Bon, pas très loin de ma rédaction d'origine qui était Le Monde.
Non, il n'y a pas un gros déménagement. Ça
non, j'ai changé de 3 étages en fait, dans le nouveau bâtiment qu'on occupe à Austerlitz. Et voilà, et je suis ravie d'avoir rejoint cette rédaction. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, on va les faire ensemble.
Votre nomination a été approuvée par 60% des suffrages exprimés. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même le symptôme d'une rédaction un peu divisée ?
Non, je pense pas du tout. Je pense que 60%, c'est vraiment pas si mal pour une candidature extérieure, si je puis dire, puisque la rédaction, au moment où je me suis présentée devant elle, ne me connaissait pas. Donc il a fallu évidemment que j'apprenne à me faire connaître, que je les rencontre aussi.
Une campagne interne ou comment ça
se
passe ?
Non, une campagne, ce serait bien, c'est un grand mot pour dire que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de journalistes. Et évidemment, je me suis présentée, je leur ai demandé de se présenter et j'ai aussi... présenter les pistes sur lesquelles j'avais envie de travailler. Et voilà, c'est sur ces enjeux, sur, sur ces envies aussi qu'ils ont votées.
Vous succédez à la tête de l'Obs à une autre femme, Dominique Nora. Je dis une autre femme parce que ça reste quand même assez rare dans la presse française. Dominique Nora a souhaité retrouver le terrain et l'écriture. C'est pour ça que sa place était à prendre. Je remarque que c'est aussi le cas de Luc Brenner au Monde qui a laissé sa place à Caroline Monod. Il faut bien des gens pour diriger, mais il faut croire que c'est usant, non ? Je vous dis ça alors que vous venez de prendre votre fonction. Vous avez conscience de ça ? C'est vraiment un rôle usant qui vous attend ?
Usant, c'est fatigant, comme tous les boulots à responsabilité, si je puis dire, mais c'est surtout très passionnant. Et moi, j'aime vraiment ça, encadrer des journalistes. Mon travail, c'est de créer des conditions pour que les journalistes s'expriment au mieux, pour que chacun puisse trouver la bonne manière de faire du journalisme, d'enquêter, de révéler. Donc voilà, créer les conditions pour qu'une rédaction s'exprime et qu'elle puisse prendre toute sa place dans le débat public, moi, ça m'intéresse énormément. C'est un métier qui me passionne. Donc pour l'instant, je suis loin d'être usée.
Oui, vous démarrez, mais il y a aussi une question d'autorité, évidemment, dans tout ça. J'imagine que vous vous êtes posé la question, comment exercer son autorité quand on dirige une rédaction ? Il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que vous avez une vision ? On va parler évidemment de vos projets sur le fond, mais est-ce que vous avez aussi une vision de ça ?
Je pense qu'une rédaction, c'est pas comme une société ou une entreprise classique, c'est d'abord un collectif. Donc en fait, c'est surtout beaucoup, beaucoup de discussions. Et le partage d'une vision ensemble. Voilà. Donc, c'est des discussions éditoriales. C'est aussi évidemment des moments où on doit trancher. Moi, ça, j'ai pas. C'est vraiment des choses qui ne me font pas peur. J'aime bien décider. J'aime bien donner des impulsions. J'aime bien écouter. J'aime bien partager. Donc je pense que c'est comme ça, en fait, que se joue la manière de diriger une rédaction aujourd'hui.
Alors, que faire et comment le faire ? Vous avez déjà, en partie, répondu à cette question. Affirmer et déployer la voix singulière de l'Obs. L'Obs, à l'origine Nouvel Observateur, lancé en 1964 par Claude Perdriel et Jean Daniel. Jean Daniel, qu'on va écouter tout de suite dans une archive qu'on a retrouvée, et qui date de 1994.
De gauche, en général, nous étions extrêmement divers. Si vous voulez, on a placé la contradiction dès le premier numéro. Pourquoi ? Parce que dans les deux parrains, regardez ce que ça allait donner ensuite, c'était, vous l'avez dit, Sartre, mais c'était Madès France. Qu'est-ce qu'il y avait de commun entre ces deux hommes, en dehors du fait qu'ils s'estimaient qu'ils avaient pour eux de la gloire, en tout cas du prestige, pour l'un ? Ou bien, pas grand-chose, et on allait le voir, et nous avons voulu installer la contradiction parce que les éléments qui étaient chez nous, les amis, les universitaires, les écrivains, les journalistes, les professionnels, étaient entre eux de gauche, mais de quelle façon ils l'étaient, on peut dire que la suite a prouvé qu'ils n'étaient pas de la même. C'était une diversité installée.
Et voilà Jean-Daniel qui a disparu l'année dernière, il faut dire l'année dernière, maintenant en 2020. Quelle gauche ? Est-ce que la question demeure pour vous ?
Alors, quelle gauche vous voulez dire pour l'Obs, en l'occurrence ?
Pour l'Obs, et puis peut-être que ça dépendra aussi de la situation politique, on ne sait pas.
Alors d'abord, l'Obs n'est pas une écurie politique, donc c'est un média, c'est un titre. Donc nous, on est guidés par des valeurs. Certes, ce sont des valeurs de gauche, mais on fait d'abord du journalisme. Donc notre travail, ça va être d'éclairer le débat public, notamment au cours de cette future présidentielle, à gauche évidemment, donc de faire vivre les débats à gauche, de montrer à quel point cette diversité est importante. Et à gauche, en ce moment, il y a un champ, vraiment, il y a une ébullition extrêmement intéressante, notamment autour de la social-écologie. On voit qu'il se passe beaucoup de choses.
On peut dire émiettement.
Émiettement, ébullition, peu importe, au fond. C'est toujours aussi comme ça que ça se passe à gauche. Il y a rarement, on va dire, un front uni. Voilà, mais peu importe, puisqu'en fait, c'est ça qui est intéressant à raconter. Nous, on n'est pas là pour unifier les gauches ou quoi que ce soit. On est là pour raconter ça. On est là aussi pour montrer tout le débat, la diversité du débat politique, et bien, bien au-delà de la gauche, évidemment. Ce qui se passe en ce moment dans le pays est très intéressant. Et donc un titre comme l'Obs se doit de raconter toutes les gauches évidemment, mais bien au-delà, évidemment le macronisme, évidemment l'exercice du pouvoir, évidemment les populismes, évidemment la droitisation du débat public. Donc c'est autour de tout ça évidemment qu'on va travailler. Et l'Obs, c'est d'abord un journal de débat, et c'est aussi un débat, un journal autour de la culture, de la politique, donc c'est
des
aussi
idées.
Des idées. Donc voilà, c'est quand je dis affirmer et déployer la voix de l'Obs, c'est aussi retrouver ses fondamentaux et les affirmer.
On va développer cette voix singulière que vous décrivez. On va tenter de trouver les mots, enfin surtout vous, pour le faire, Cécile Prieur. On revient dans pas très longtemps après la pub. Vous êtes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Toujours en compagnie de Cécile Prieur, la nouvelle directrice de l'Obs. Le dernier numéro en date de l'Obs est un numéro double, un peu froid comme tous les hebdos en cette fin d'année. Il faut bien que les journalistes se reposent. En tout cas, qui fait la une ? Eh bien, c'est elle.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Kamala Harris, évidemment, première femme vice-présidente des États-Unis, mais disait-elle, pas la dernière. Double symbole, Cécile Prieur, double symbole, parce que première femme noire. C'est curieux qu'il faille aller le chercher aux États-Unis, ce symbole-là. Il n'y avait pas de... Je sais bien qu'elle est racontée par
Christiane Taubira,
mais il n'y avait pas de tel visage en France pour la une de l'Obs de fin d'année.
Ben, d'abord, on a estimé que l'élection de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, c'était vraiment l'élément vraiment le plus marquant de 2020.
Enfin, c'est elle qui fait la une, pas lui, hein.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est un choix délibéré.
J'imagine.
Par ailleurs, il avait déjà fait la une au moment de son élection, en novembre, hein, la une de l'Obs. Pourquoi Kamala Harris ? Ben, tout simplement pour le symbole qu'elle représente aussi, et parce que ce que j'essaye d'expliquer dans l'édito, on pense, on est persuadé qu'elle ouvre la voie à une nouvelle manière de gouverner aussi. Donc voilà, il y a de plus en plus de femmes, bien que ce ne soit que 19 pays qui soient gouvernés par les femmes dans le monde. Mais c'est déjà 19 pays et elle marque la manière dont elle gouverne en fait. On l'a vu dans la crise du coronavirus. Et Kamala Harris, évidemment, c'est une fille d'immigrée, c'est une success story à l'américaine. Et on sait bien que Joe Biden a créé ce ticket parce que c'est elle et parce qu'éventuellement elle pourra devenir la future candidate démocrate dans 4 ans. Voilà, donc pour nous c'était important de marquer symboliquement que Kamala Harris représente sans doute l'avenir aussi des États-Unis, mais aussi une nouvelle manière aussi d'exercer le pouvoir.
Oui, mais à nouveau cette remarque, il n'y a pas d'équivalent en France, c'est assez désespérant au passage.
Alors, pour l'instant, pas d'équivalent. Enfin, il y a des femmes politiques en France qui sont importantes dans le débat public. Ensuite, il faut bien voir que la démocratie américaine ne se structure pas du tout de la même manière que la française. Et donc, voilà, aux États-Unis, on sait qu'il y a plus d'opportunités pour les hommes et les femmes politiques d'émerger. À chaque campagne américaine, on voit des nouvelles figures. C'est malheureusement pas le cas en France. C'est vrai qu'en France, on a un petit problème d'émergence de nouvelles figures.
Qui vient d'où, selon vous
La structuration institutionnelle partisane et institutionnelle de notre pays. Je veux dire, la Ve République corsette quand même énormément la manière dont il faut passer par une structure partisane pour pouvoir émerger, etc. On voit évidemment, avec le phénomène... du macronisme, par exemple, que...
Le phénomène du macronisme.
Non, mais en tout cas, en fait, voilà, quand Emmanuel Macron a essayé de transcender ça, de créer son propre mouvement, etc., on voit, effectivement, qu'en France, il y a des tentatives pour faire autre chose, sortir des structures partisanes, mais c'est pas très simple. Et pour les femmes, ça l'est encore plus, évidemment, dans ce pays, puisqu'on n'est pas encore dans un pays qui... considère qu'être une femme serait une banalité en politique.
Ouais, puisqu'on en parle, vous êtes une femme, vous dirigez maintenant un hebdomadaire français, est-ce que c'est encore bien de le remarquer ? Ou alors, vous, Cécile Prieur, vous n'êtes pas de sexe en dirigeant, vous voyez ce que je veux dire ?
Alors moi, j'ai absolument aucun problème à revendiquer mon genre et mon sexe. Je pense qu'au contraire, c'est important de pouvoir le dire. Et oui, je suis une femme et c'est notable, puisqu'en fait, nous ne sommes pas très nombreuses à diriger des médias ou nous ne sommes pas très nombreuses non plus à diriger tout court. Donc non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'au contraire, c'est important, si possible aussi, d'être un rôle modèle pour les jeunes femmes et les jeunes filles qui vont... nous succéder.
Donc, comme Kamala Harris, hein, à votre façon.
Oui, oui, oui. Moi, je suis pas de cette génération qui pense que hommes et femmes. Évidemment, je suis pour l'égalité. Et voilà, mais j'ai aucun problème à revendiquer ça et à affirmer ça.
Alors, votre prédécesseur, avec un E à la fin, là, Dominique Nora, puisqu'on revient à cette fameuse ligne de l'Obs qu'il faut mettre en place, avait parlé d'un optimisme de combat. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reprenez ce flambeau-là?
Alors oui, ça me parle parce que je pense que l'Obs se doit aussi d'être un titre et un magazine qui parle aussi des solutions, qui parle aussi d'un journalisme constructif. Donc oui, c'est important de ne pas être que dans la déploration ou dans la critique, bien que évidemment le journalisme c'est d'abord ça, hein, c'est l'enquête, la révélation, et l'Obs ça va être aussi ça, ça doit être ça.
Ça veut dire, pardon, que vous allez mettre le paquet pour l'enquête en termes de moyens et de pagination sur certains sujets?
Alors on va surtout mettre le paquet en termes d'angle, hein, d'envie, d'idées et d'informations. Voilà. Donc le journalisme, finalement, ça ne s'autorise que de lui-même. Donc c'est d'abord des idées, c'est d'abord aussi des intuitions. Donc on va chercher, évidemment. Notre rôle, c'est d'enquêter, de révéler. C'est d'abord donc notre travail, hein, d'éclairer les faits. Voilà. Mais et donc c'est naturel pour l'Obs de faire ça.
Vous savez déjà vers quoi iront ces moyens, justement, quel domaine? Vous dites quoi? L'environnement, la cause des femmes, vous pouvez les lister?
Alors, l'environnement, ça, c'est effectivement, en tout cas, les questions d'écologie, raconter justement ce bouillonnement dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est à la fois sociétal, politique. Voilà, il y a des initiatives partout et on voit comment la crise climatique structure en fait la vie des gens. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on a véritablement envie d'éclairer et d'enquêter. L'Obs, c'est évidemment aussi un magazine sociétal, donc c'est toutes les transformations de la société. C'est porter aussi les débats qui sont très importants dans le débat public, hein, être un peu aussi un porte-étendard de ces causes. Et c'est aussi évidemment un magazine politique, d'idées et aussi un magazine culturel. La culture est très très importante dans l'Obs. L'Obs, c'est le magazine qui consacre le plus de place à la culture aujourd'hui. Et donc cet effort aussi, on va le déployer aussi sur le numérique. Un des grands axes de travail pour 2020.
C'est la priorité, le numérique, hein.
Bah, ça va être, c'est en fait, on va refaire notre site petit à petit. Et on, voilà, toute cette richesse de débats intellectuels et culturels que porte l'Obs dans son magazine papier, on va trouver des relais pour que. Tout ça s'exprime aussi sur le numérique.
Rapidement, 2022 n'est plus si loin avec sa présidentielle. Et est-ce que l'Obs soutiendra un candidat?
Alors, l'Obs, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une écurie politique.
Oui, enfin, par le passé, c'est arrivé.
Alors, ça a pu arriver, effectivement.
Vous ne ferez plus?
Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ce sera un débat collectif. Tout dépend aussi de la manière dont l'élection présidentielle se structure. Donc, c'est bien trop tôt pour répondre à ça.
Vous avez reçu des objectifs de vente à atteindre?
Non, nous n'avons pas d'objectif avec Grégoire de Vessière, qui est le directeur général avec qui je travaille. On n'a pas d'objectif chiffré. Par contre, on a des ambitions, bien sûr, notamment celle d'augmenter nos abonnements numériques.
Et il vous reste 20 secondes, Cécile Prieur, pour me dire comment vous avez trouvé les vœux hier soir à 20h d'Emmanuel Macron.
Ah. Eh bien, j'ai trouvé que la collection de citations, de noms, de prénoms de Français, c'était finalement une manière intéressante d'essayer de clore cette année. Et que, voilà, la dernière image au coin du feu était étonnante.
Il n'a pas dit Cécile, il ne vous a pas cité.
Non, enfin, bon, ça viendra peut-être. D'ailleurs.
Non, moi non plus, je suis très déçue. Merci beaucoup, Cécile Prieur, directrice de l'Obs. Je vous souhaite un bon courage et je vous souhaite une bonne année. À bientôt.
Merci, vous aussi.
À suivre dans la deuxième heure. Bah oui, la deuxième heure, la deuxième quoi d'autre de Culture Média. Après les infos, pour le premier jour de l'année, s'offrir un cycle en entier, printemps, été, automne, hiver. Les sœurs Berthollet, Julie et Camille sont nos invités avec leur album 4 saisons. Indispensable, Nicolas Caro, le meilleur de la rentrée littéraire à venir. Et avec Louise Bernard, une sélection des meilleurs humoristes du festival de Montreux. Et puis évidemment, la fin de la série des séries d'Eva Rock. Regardez l'heure, vous qui vous levez, il est 10h sur Europe 1.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor? Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.